Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr. Et avec moi sur ce plateau, son fondateur Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Marc.
Catherine Tricot, la directrice de la revue Regard. Bonjour, bonjour Catherine. Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Bruno.
Bonjour Marc.
Et Carole Barjon, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Carole.
Bonjour Marc.
Alors cela fait moins d'une semaine que s'est produit le clash entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche. Un électrochoc pour l'Europe où les réunions d'urgence se succèdent, y compris ce jeudi à Bruxelles. Alors à la veille de ce sommet extraordinaire de l'Union européenne, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mercredi soir pour leur dire que la Russie est une menace, que l'ère de l'innocence est révolue et l'heure de se réarmer venue.
Dans son message aux Français, le président Emmanuel Macron sonne le tocsin sur la menace russe.
La Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ?
Face à ce danger, rester spectateur serait une folie pour le président français. Il veut voir se développer la défense européenne et annonce en avant-première les décisions qu'ont pris les dirigeants européens.
Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants.
La France va, elle aussi, augmenter son propre budget de défense. Un budget qui lui permet de financer son arme nucléaire, qui pourrait peut-être demain bénéficier aux Européens.
J'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées.
Réarmer le continent face à la menace russe, un impératif pour le président français, au moment où les États-Unis semblent s'éloigner de leurs alliés historiques.
Alors ces propos du président sur la menace russe ont fait réagir le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a accusé la France de vouloir prolonger la guerre et qualifier les propos d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire de menace pour la Russie. Jean-Marie Colombani, c'est vrai que le président a été assez alarmiste sur la menace russe.
Alarmiste, il a été clair. Il a heureusement clarifié la situation parce que dans le climat ambiant, dans l'ambiance et l'angoisse qui étreint un peu tout le monde, il était bien de rappeler d'où viennent les choses, contrairement à ce qu'on entend, notamment aux États-Unis. Ça n'est pas l'Ukraine qui est fauteur de guerre, c'est bien la Russie qui menace ses voisins immédiats et qui, à terme, menace l'ensemble de l'Union européenne. C'est un objectif de toujours de Vladimir Poutine. Donc c'était cette clarification qui était nécessaire et de dire, d'alerter l'opinion des Françaises et des Français sur la gravité de ce qui se passe et qui est un bouleversement complet de ce que nous vivions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque, en gros, Donald Trump a changé de camp. Et donc est venu renforcer le camp de Poutine. Donc ça crée une situation qui oblige les Européens à se saisir eux-mêmes des moyens de leur propre défense. D'ailleurs, il y avait une phrase très significative dans ce que disait Emmanuel Macron, en disant « j'ose espérer » ou « j'espère que les États-Unis resteront nos alliés », etc. Mais dans l'hypothèse où cela n'arriverait pas, il faut se préparer, il faut s'armer soi-même, etc. Donc tout était dit dans la gravité de ce qui se passe.
Catherine, ces propos quand même sur la Russie visent à, certains disent à faire peur, d'autres disent que c'est un sursaut absolument nécessaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prise de parole du président, notamment sur ce sujet de la menace russe ?
Le sujet de la menace russe n'a pas cru d'un seul coup. Il est devenu plus important du fait de la position prise par les Américains. Donc c'est quand même une affaire relative, tout ça, qui est le fait que les Américains changent de camp. Ça crée une situation tout à fait nouvelle. On change d'air, comme l'a dit Emmanuel Macron hier. Moi, j'ai noté qu'il a donné une traduction très concrète de la menace russe aujourd'hui. Par exemple, les attaques qui sont portées contre les hôpitaux français, tout le monde peut se représenter les conséquences extrêmement graves que cela peut avoir et que donc ça, je trouvais qu'il a réussi à caractériser ce qui se joue avec la Russie actuellement. En revanche, j'ai beaucoup moins apprécié, ce qui est dans votre extrait, quand il dit que les Russes consacrent 40% de leur pays, de leurs recettes, de leurs ressources budgétaires à l'armement. Là, il envoie un message extrêmement anxiogène. Si on veut bien regarder les choses en face, la Russie consacre 100 milliards à son budget de l'armement, la Chine 260 milliards, les États-Unis 750 milliards et la France aujourd'hui 50 et elle sera à 70 dans 5 ans et l'Angleterre est déjà à 70. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la Russie est dans l'ordre de grandeur de l'Inde, de l'Angleterre et de la France, très loin derrière la Chine et encore plus loin derrière les États-Unis. C'est-à-dire qu'ils nous lancent des chiffres qui sont catastrophiques. On se dit, waouh, 40%, mais c'est terrible. Alors que 40%, quand on a un tout petit budget, c'est pas forcément énorme. Donc il faut reprendre les choses à leur juste proportion. La France a les moyens, ce qui a été rappelé par le président et par le Premier ministre également dans son allocution cette semaine au Parlement. La France et l'Europe ont les moyens de faire face. On n'est pas obligé de faire la stratégie du choc pour nous faire peur, pour nous donner ensuite. Et c'est le deuxième, et ce sera mon dernier point, c'est qu'il embraye en disant on va dépenser beaucoup plus pour notre défense, mais il n'y aura pas d'impôts en plus. Et donc il va falloir revenir sur trois petits points, la protection sociale, les services publics, puisqu'il n'y aura pas d'impôts en plus. Donc,
il n'a pas dit ça. Hein.
Non, il ne l'a pas dit. C'est pour ça que je dis trois petits points. Mais s'il n'y a pas d'impôts en plus et qu'on dépense plus pour l'armée, qu'est-ce qu'on va dépenser? Où on va dépenser moins? Donc c'est pour ça que j'appelle ça la stratégie du choc, en référence au livre de Naomi Klein, qui est une intellectuelle canadienne, qui a théorisé le sujet. On prend un sujet et on en profite pour taper ailleurs. Et en l'occurrence, je pense qu'Emmanuel Macron veut aller au bout de sa stratégie, qui était celle de son premier mandat, qui n'a pas abouti, c'est-à-dire en fait à remettre en cause finalement les fondements de notre société. Je pense que ce n'est pas un bon moment quand on veut faire corps, quand on veut que l'âme de la nation se rassemble.
On peut difficilement croire que Emmanuel Macron veut remettre en cause les fondements de notre société quand il s'agit d'un appel à ce que tout le monde ait conscience qu'il va falloir se défendre et défendre l'Union européenne. Donc je pense que là, vous allez trop loin, si je peux me permettre.
C'est mon avis.
Carole, c'est vrai qu'il y a un appel au patriotisme, il faut défendre la nation, parce que Emmanuel Macron aussi, d'une certaine façon, sent que son appel à l'autonomie stratégique de l'Europe, qui n'était pas très écouté aujourd'hui, il semble que les autres pays européens, sans le parapluie américain, ils fassent plus attention.
Oui, forcément. Moi, je trouve que quand même Emmanuel Macron a remis un certain nombre de pendules à l'heure, notamment effectivement en s'appuyant sur le revirement des États-Unis, dont il avait déjà prévenu qu'il se produirait dans son discours de la Sorbonne en 2017. Il avait déjà dit, les États-Unis se détachent petit à petit, etc. Et il va falloir penser à une défense européenne et que les Européens assurent eux-mêmes leur propre sécurité. Donc, effectivement, là, il y a eu un appel au patriotisme. J'ai noté... C'est pas courant d'entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron le mot de patrie. C'est pas un mot qu'il utilise très souvent. C'est plutôt la France ou le pays.
Ou
l'Europe, oui. Voilà. La patrie, c'est, j'ai trouvé, ça m'a frappé. Bon, donc, c'est quand même un appel à la mobilisation générale et qui était plutôt bienvenue, même si on avait entendu dans les avant-commentaires, si je puis dire, que le président allait tenter de rassurer les Français. Moi, je ne trouve pas qu'il les ait vraiment rassurés. Il a mis un certain nombre de choses au clair. Mais son petit discours était plutôt alarmiste, comme l'a dit Jean-Marie. Et peut-être est-ce nécessaire, d'ailleurs. Maintenant, il a aussi tenu des propos comme « Aujourd'hui, maintenant, l'Europe de la défense devient une réalité ». Là, je pense qu'il s'avance un petit peu parce que c'est précisément toute la question. On ne sait pas ce que serait éventuellement cette Europe de la défense. Est-ce que ce serait un organisme dédié? Quels moyens? Quel leadership? Enfin, tout ça, ce sont des choses qui vont commencer à se mettre en place, peut-être. Enfin, il faut l'espérer. Mais il y a un problème de décalage, en fait, entre le court terme et le long terme, à la fois chez nous, parce que s'il faut augmenter le budget militaire sans augmenter les impôts, ben, ça veut forcément dire réduction des dépenses. Bon. Donc ça va être compliqué pour le gouvernement Bayrou, ça c'est pour le court terme en France, et même le court terme à l'international, on sait que l'Ukraine... c'est quand même... Il y a urgence, enfin, je veux dire, il ne faut pas laisser le temps à la Russie d'avancer encore plus. Donc, il y a pas mal de chantiers nouveaux en route.
Bruno, c'est vrai qu'il y a un petit peu un ton incantatoire de la part d'Emmanuel Macron, parce qu'il sait très bien que tout ça ne va pas arriver très vite. Mais c'est vrai qu'il a parlé de ces dépenses qu'il va falloir augmenter, qui sont sorties des comptes déjà déficitaires en France, de l'argent magique en quelque part. Alors, est-ce que c'est réaliste ou est-ce que, comme Catherine le disait, comme Carole vient de le pointer, ça veut dire qu'on va revenir sur certaines choses, notamment au niveau du modèle de protection sociale français?
Alors, sous réserve que le Conseil européen se termine sur... Il n'y aura pas d'accord forcément ce soir, mais... que ce que va présenter, ce que présente Madame von der Leyen, c'est-à-dire ce plan de réarmement massif de l'Europe, des pays membres de l'Union européenne autour de 800 milliards qui se découpe grosso modo, on n'a pas encore vraiment le détail, mais grosso modo 200 milliards d'emprunts européens et 600 milliards qui seraient à trouver par les nations européennes elles-mêmes, chacune choisissant les voies et les moyens d'atteindre la part qui lui concernera. On sait, certains vont aller vers sans doute de l'emprunt, d'autres vont aller vers d'autres formes de d'efforts. Le Danemark a déjà indiqué qu'il réfléchissait à augmenter l'âge de départ à la retraite de 68 à 70 ans. D'autres pays vont aller vers peut-être de forme d'emprunt national.
La France, pas la France a priori quand même.
La France travaillerait sur une solution mixte, j'ai l'impression. On en saura un peu plus avec le ministre de l'économie qui devra en dire peut-être un peu plus, peut-être le Premier ministre ce week-end, on verra, notamment travaillant sur un livret A, une sorte de livret A, mais pour orienter vers la défense militaire. C'est une des hypothèses qui est vraiment travaillée par Bercy. Donc on voit que la France va devoir trouver des solutions. Ça ne pourra pas être un quoi qu'il en coûte. Enfin, faut un peu. Et c'est un peu ça que le président est en train de travailler. Il prépare les esprits à ça. Alors après, effectivement, là, il va y avoir du débat politique parce qu'il va y avoir sans doute une partie de la gauche qui va refuser qu'on taille dans l'État-providence, qui va refuser éventuellement de travailler plus, repousser l'âge de départ de la retraite. J'en sais rien, mais enfin, on peut être sur ces solutions-là. La solution de l'emprunt, ce serait la facilité. La France est déjà dans une situation compliquée. Même si, au passage, dans cette crise, on se débarrasse de la question des 3%, puisqu'on va y inclure les dépenses militaires, qui, pour la France, va quand même être un... Parce que ce qu'a dit le futur chancelier, enfin, élu et futur chancelier, Friedrich Merz, qui annonce deux jours avant le résultat, Et je pense que c'est vraiment historique, le président l'a dit hier soir, que l'Allemagne va changer sa doctrine militaire, que l'Allemagne va s'armer, que l'Allemagne pourrait passer sous parapluie nucléaire et qu'au fond, ce pays, pour des raisons historiques, qui a peu investi dans le militaire, qui n'a que 76% de taux d'endettement par rapport à son PIB, oui, effectivement, c'est parce qu'ils n'ont pas eu à avoir la charge. Alors nous, on a beaucoup dépensé, mais on avait toutes nos charges militaires qui ont beaucoup pesé, grévé, et tous les présidents de la 5e depuis quasiment Mitterrand ont voulu qu'on sorte les dépenses militaires des 3%. Ça va être le cas, ce qui va quand même donner un peu d'oxygène à la France. Mais ça ne règle pas la question de l'endettement de la France par ailleurs. Donc, oui, il va y avoir des sacrifices à faire. Oui,
mais quels
seront-ils? Ça, on ne le sait pas encore. Mais on voit bien toute la... Sur le panel des efforts à faire, il y en a plein. Et effectivement, ce sont des choix politiques qui...
Il a parlé d'efforts sans précédent.
Ce qui est compliqué, c'est ce que disait Carole tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ce télescope en même temps que les événements et les rapports de force qui sont en train de changer à la vitesse grand V, ce télescope aussi les échéances dans le temps. Puisque dans l'immédiat, il faut sauver l'Ukraine, qui est massacrée, enfin, qui est en voie d'être massacrée par son ex-protecteur, c'est-à-dire... Parce qu'on voit bien que l'histoire de la Maison-Blanche, c'était un vrai guet-apens. Et on voit bien que, continuellement, Trump et ses hommes essaient de discréditer
Zelensky.
Et on se souvient que, Poutine, à chaque fois qu'il a pris la parole sur le sujet des négociations, excluait la présence de Zelensky. Et donc, tout se passe comme si les États-Unis faisaient en sorte aujourd'hui de marginaliser, de l'exclure, etc. Donc ça, c'est une échéance immédiate pour les Européens, qui ne peuvent pas laisser tomber l'Ukraine. L'autre échéance plus rapprochée, c'est comment on constitue en effet un embryon de défense européenne, comment on s'organise, étant entendu que l'enjeu là porte surtout sur les industries de défense. Et puis ensuite, vous avez à plus long terme, en même temps, les problèmes qui ont été soulevés par Bruno, là, qui sont les problèmes de comment on finance, comment on s'organise, ainsi de suite. Et ensuite, in fine, comment tout ça se replace ? Est-ce que l'Union européenne réussira à exister dans tout cela ?
Est-ce que ce sera un autre cercle ? Parce qu'on voit bien
l'OTAN
entre la réunion de Paris et la réunion de Londres, on voit une espèce de petit conseil de sécurité de défense européenne s'organiser.
Exactement.
Mais il n'y a pas les 27, ils ne sont pas tous là.
Mais
on y ajoute certains pays membres de l'OTAN, comme la Turquie qui était présente, présente à Londres.
Les Anglais.
Mais la grande nouvelle stratégie,
quand même, la Norvège.
Il y a quand même. On redessine un peu.
Exactement. Et en même temps, il y a un grand changement stratégique aussi, qui est plutôt positif, qui est le changement de l'Allemagne. Parce que le futur chancelier a bouleversé les choses en deux temps, trois mouvements. Premier temps, nous sommes pour une défense européenne. Deuxième temps, pour une défense européenne indépendante. C'est-à-dire le ralliement complet aux thèses françaises. Je veux dire, et donc, auquel il faut agréger maintenant la Grande-Bretagne, la Pologne et peut-être d'autres pays européens. Donc tout ça est en train de se... Mais tout ça s'entremêle, c'est ça qui est compliqué.
Il y a une accélération.
Et c'est ça qui donne un peu le vertige d'ailleurs, et qui peut laisser penser aux opinions qu'on va perdre pied.
Le problème, c'est qu'effectivement, le revirement de l'Allemagne est absolument historique et fondamental. Maintenant, ils ont compris qu'il n'y avait plus de parapluie américain, et il y aura peut-être un parapluie européen avec la force nucléaire française. Mais justement, c'est toujours ce même décalage entre, quand même, je trouve, une grande réactivité de la plupart des grands pays européens, en parole, et c'est bienvenu, et ensuite, effectivement, la mise en œuvre dont on a tous compris, enfin, quand vous entendez tous les spécialistes, les généraux qui s'expriment, etc., on sait très bien qu'une industrie de défense, ça se remet pas en route comme ça, qu'il y a des usines... Mais, parce que ça fait écho, du coup, aussi à la désindustrialisation de nos pays. Donc, c'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a une grosse inquiétude chez les Français, et chez les Européens de manière générale.
Catherine. Moi, je trouve que dans les éléments qui sont un peu troublants, c'est que là, on se rend compte qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui nous apparaissaient comme étant intangibles et qui deviennent, on vient de le rappeler, les trois... Oui, mais je dis ça parce qu'on nous a souvent dit que ce n'était pas possible. On se rend compte que, finalement, le déficit... finalement, on nous a dit qu'il fallait...
Vous aviez exemple qui s'était déroulé, qui était la même chose, qui était le Covid. Le Covid, alors, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été de l'argent européen
tout à fait,
qui a permis de
tout
passer...
À fait,
voilà,
tout à
et
fait,
ça a été aussi la mise à l'écart
fait,
du déficit
tout à fait,
momentanément.
Donc, ceux qui disent, attendez, il n'y a pas d'argent pour le changement climatique, il n'y a pas de... Non, c'est l'Europe considérée n'a pas voulu que les investissements... pour le changement climatique, soit, par exemple, pris en compte soit par un emprunt européen, soit sorti du calcul de la dette. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on se rend compte que la politique peut être possible et qu'on peut faire des choix. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les choix de réarmer. Ce que je dis, c'est qu'en fait, tout ce qui nous a été présenté comme des choix nécessaires, non discutable. Et il y a 5 milliards de déficit sur la retraite. 5 milliards. Et là, on nous annonce 140 milliards pour la défense. C'est-à-dire que les choses qui nous est, sur lesquelles...
Donc il y aura de la casse sociale, c'est ce que vous
voulez
dire.
Ce pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, les ordres de grandeur, on commence à se rendre compte que 5 milliards, où on a voulu nous tétaniser et nous dire c'était terrible, il y avait 5 milliards de déficit. Et on se rend compte qu'on est capable d'envisager de dépenser 140 milliards pour l'armement. Donc les 5 milliards, c'est quand même une chose... Là, on est passé de 30 en 2017 à 50 milliards aujourd'hui. On sera à 70 en 2030. Et l'objectif, c'est de passer à 140 milliards. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que des choses qui nous apparaissaient, qui étaient présentées comme des choses non négociables et qu'on était des irresponsables de dire « mais 5 milliards, ça se discute ». Non, il ne fallait pas en discuter. 5 milliards, c'était incontournable. Tous les enjeux écologiques.
On
n'y
est pas, Catherine, vous dites 140, on n'y est pas du tout.
Non, mais on n'y est pas, mais on va passer. On va passer
0,5 point du PIB, c'est 15 milliards.
Non, mais
franchement, déjà, ajouter 15 milliards l'année prochaine, alors qu'il faut enlever 60.
J'entends bien. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, on nous a intimidés avec des chiffres qui, en fait, s'avèrent aujourd'hui comme étant des chiffres tout à fait relatifs et qui se discutent et qui peuvent faire l'objet de choix. Et que donc, quand on nous a dit que les 5 milliards pour la retraite, c'était pas possible, qu'il fallait absolument que les partenaires sociaux se mettent d'accord, etc., etc., là, on nous dit, mais on va pouvoir augmenter les dépenses militaires. Je veux dire qu'il y a donc,
c'est de la sécurité,
il y a donc, non mais j'entends bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ses choix. Je suis en train de dire
qu'on peut les faire
et que donc on peut en discuter.
Je crois qu'on pourra tous les faire.
Je pense qu'on peut en discuter. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'intimider tout le monde avec des chiffres sur lesquels on nous dit mais 5 milliards, vous vous rendez compte. Alors tout le monde dit ah oui, 5 milliards par rapport à mes 1500 euros.
On va juste
écouter de salaire, c'est beaucoup.
Alors il y a quand même eu quelques réactions politique. On va écouter deux réactions politiques, Mathilde Panot pour la France Insoumise et Sébastien Chenu pour le Rassemblement National.
Les va-t-en-guerre ont eu tort. Voilà ce qui. Tous ceux qui se sont alignés sur l'OTAN, sur une stratégie atlantiste, ont eu tort. Et face à une internationale de l'extrême droite qui est en train de s'organiser, il faut revenir au droit international et avoir une France indépendante au service de la paix.
Ils jouent sur les peurs, pourquoi ? Pour dire circuler, il n'y a rien à voir. Comme ça, pendant ce temps-là, on ne parle plus d'immigration, on ne parle plus d'insécurité, on ne parle plus des finances publiques de la France, on ne parle plus de tout ça. Et on dit aux Français, attendez, c'est bientôt la guerre face à la Russie, ayez peur, faites confiance à votre bon président Macron, il va vous protéger. Tout ça est une honte parce qu'il utilise le drame de l'Ukraine pour finalement faire avancer un agenda fédéraliste.
Bruno, réaction, on a notamment entendu une honte de la bouche de Sébastien Chenu qui pense que Emmanuel Macron instrumentalise tout ça pour faire peur et se remettre au centre du jeu.
Oui, la petite musique à l'extrême droite qui par ailleurs est assez embarrassée entre Marine Le Pen lundi, si vous avez compris quelque chose au discours, c'était quand même, il y avait à peu près tout, on était dans le en même temps qui le lendemain corrige dans le Figaro pour expliquer.
Non, c'était samedi au salon de l'agriculture ensuite elle corrige.
Le samedi est un fort, le lundi.
C'est pas la même chose.
Oui, ils disent pas la même chose, ils sont vraiment, et là, bon, voilà, ils se calent sur des éléments de langage, une honte, bon, voilà, on globalise, et Emmanuel Macron a fait peur à tout le monde, et ils vont même jusqu'à hiérarchiser les peurs. Est-ce qu'on a plus peur du terrorisme islamiste que de la menace russe, comme
pour
si,
eux, la réponse est oui.
Comme si, oui, bien sûr, comme si c'était pas deux menaces qui pouvaient très bien être conçues comme deux menaces, alors qu'eux, ils font une hiérarchie. Les insoumis, c'est plus intéressant parce qu'on voit les insoumis, ils vont tout de suite sur le terrain. Enfin, en tous les cas, Manuel Bompard est tout de suite allé sur le terrain de Emmanuel Macron prépare le serrage de vis pour les Français. Ça a été tout de suite. Donc
la destruction du modèle social.
Oui, tout de suite. Il a tout de suite foncé là-dessus. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit bien la bataille politique qui va s'engager. Et avant même qu'Emmanuel Macron ait dit quoi que ce soit, parce qu'Emmanuel Macron hier soir. D'ailleurs, on est
pas d'augmentation d'impôts.
À part ça, il n'a rien dit.
Mais pourquoi ?
Non, mais il a dit pas d'impôts, mais après, il n'a pas dit.
Comment se fait-il ? Qu'est-ce qui permet à Emmanuel Macron, avant même que le débat ait lieu, de le clore, pas d'augmentation d'impôts ?
Parce que je pense que la France est un pays qui est saturé d'impôts.
Non, mais d'accord, mais ça se discute. C'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Enfin, c'est son opinion.
C'est son opinion.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il
est président de la République.
Non, mais c'est son opinion.
Il fait une allocution présidentielle, il peut aussi donner son opinion.
Bon, ben moi, je pense qu'il y a. Oui, mais donc, du coup, c'est ça le problème. Il crée un problème.
Les impôts, c'est quand même. Ça passe quand même par la loi, c'est quand même le Parlement
qui en décide. Donc, c'est
quand même le Parlement qui en décide.
Donc, ce n'est pas le président.
Le président peut donner son avis.
Non, mais d'accord, mais ce n'est pas le président, c'est le Parlement.
C'est pas le président de la 4ème République. On est encore sur la 5ème.
Donc ce n'est pas lui, c'est pas lui qui décide de l'impôt, c'est le Parlement, c'est les députés.
Oui, mais il a le droit de donner son avis.
Mais je m'en fiche qu'il donne son avis. Ce que je suis en train de dire...
Je vais demander l'avis de Carole.
En faisant ça, il a bloqué une partie du pays. Il bloque une partie du pays qui ne peut pas valider. On ne peut pas valider, quand on est un peu sensible aux questions écologiques et sociales, un discours comme ça. Ce n'est pas possible.
Carole.
Bah, mais comment dire, sur les, la réaction des RN insoumis aussi, qui sont, bah, voilà, ces deux partis-là, clairement, sont extrêmement embarrassés. Manuel Bompard se débrouille pour, au fond, passer le sujet majeur, qui est, voilà, qu'est-ce qu'on fait, la menace de guerre, etc. En parlant, enfin, en faisant un peu de politique politicienne, honnêtement, parce que il fait passer presque au second plan, il ne parle pratiquement que de la France et de ce que ça va représenter pour les Français. Moi-même, tout à l'heure, j'ai dit, à partir du moment où Macron dit qu'il n'y aura pas d'impôts, ça veut forcément dire réduction des dépenses. Donc, on a tous bien compris. Mais l'autre, le sujet majeur qui entraînerait tout ça, manifestement, ça n'intéresse pas les insoumis. Par ailleurs, et qui dirigent d'ailleurs leurs attaques beaucoup plus, je note, vers Trump, que vers Vladimir Poutine, faut quand même le souligner. Au Rassemblement National, il y a à peu près le même embarras. Alors effectivement, avec Marine Le Pen qui a corrigé ensuite ses propos, quand même tout le monde était dans la sidération vendredi dernier face à cette scène.
Sauf elle.
Rappelez peut-être pour les téléspectateurs de quoi il s'agit.
Bah, la manière dont Donald Trump a traité Vladimir Zelensky, en lui expliquant qu'il ne respectait pas, avec une violence, et une violence mais inouïe, en lui expliquant que de toute façon c'était lui qui avait déclenché la guerre, qu'il comptait pour rien.
Et Marine Le Pen a résumé ça à une discussion terrible.
Qui manquait de respect aux États-Unis. Enfin,
mais la réaction de Marine Le Pen.
Il l'a traité comme moins que rien. Ça a choqué, je crois, énormément de monde. Et Marine Le Pen n'a rien trouvé de mieux à dire le samedi au Salon de l'Agriculture, que c'était normal qu'entre les chefs d'État, il y a toujours des discussions un peu franches. Voilà. Et brutale, etc. Et ensuite, elle a corrigé dans le Figaro le mardi, où elle a dit.
Entre-temps, il y a eu un discours plus réaliste de Jordan Bardella.
Oui, tout à fait.
Qui admettait la réalité à la fois de ce qui s'était passé à la Maison-Blanche et puis de
absolument.
La réalité
oui, oui. d'une agression. Donc, en fait, on sent que cette affaire-là les met très, très mal à l'aise. Une unité du bloc central, si on peut dire, avec aussi les LR. Olivier Faure, au Parti Socialiste, a réagi assez spontanément en disant que oui, il fallait, enfin que le président avait dit un certain nombre de choses qu'il fallait dire, tout en précisant qu'il fallait protéger notre modèle social.
Oui, mais
grosso modo, voilà. Et sauf le Rassemblement National d'un côté et les Insoumis de l'autre. Comme souvent, j'avais envie de dire.
Dans ces périodes historiques, ce qui est vraiment très dommage, c'est l'état du débat français. Parce que chacun reprend ses billes et nous ressort sa propre obsession. Alors ici, c'est nécessairement derrière les propos de Macron, nécessairement l'annonce de la destruction du modèle social, alors qu'on a un gouvernement qui passe son temps à dire que son ambition est exactement l'inverse, ainsi de suite. En Grande-Bretagne, qui ont davantage le sens de l'histoire, en Grande-Bretagne, il y a eu, comme toujours, un grand débat. Il y a pratiquement tous les jours des débats au Parlement britannique. Il y a eu une unanimité absolue derrière un gouvernement travailliste qui, en temps normal, est combattu par l'opposition de droite et d'extrême droite. Ils étaient tous unis, unanimes, pour soutenir à la fois l'analyse de leur gouvernement et la nécessité de se défendre.
Il n'y a pas eu lundi à l'Assemblée nationale.
Et à l'Assemblée nationale, on a eu chacun reprend ses billes, etc. Et chacun
quand ils étaient là. Parce qu'en plus, il y avait peu de monde.
Donc c'est vraiment de la part de la représentation nationale.
Et des partis, on n'est pas aidé. Hein,
oui, exactement.
À l'Assemblée. Hein.
Mais de...
Non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Formule.
C'est vrai, mais c'est...
Franchement, c'était...
Oui, exactement. Mais on s'attend à une prise de... Enfin, je ne sais pas, un minimum de conscience de la gravité des choses. Pas du tout.
Non.
Vraiment, on passe à côté. On revient vite à des questions... plus classique.
C'est assez pathétique.
Or, si on prend par exemple l'extrême droite, elle est coincée entre le fait que Marine Le Pen a tenté de faire oublier un peu les allégeances qu'elle avait vis-à-vis de Poutine un temps, etc. Et puis, bénédiction, c'était l'élection de Donald Trump. Et maintenant, voilà que les deux se rejoignent. Donc, il y a une confusion totale. Et ainsi de suite. Je veux dire, c'est dommageable pour l'ensemble du pays d'être incapable de considérer le discours ou la situation pour ce qu'elle est, gravissime. Et il faut, c'est un moment où il faut être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, et où renaît évidemment le parti de l'apaisement. Le parti de l'apaisement, c'est-à-dire mélange de pacifisme, ou de pro-russe, ou de pro-Poutine, ou et ainsi de suite. Et on retrouve d'ailleurs des très vieux clivages dans la société française qui ont miné ce pays pendant des années. Et qu'on serait incapable aujourd'hui de surmonter. Voilà, donc c'est ça.
Parti de l'apaisement relayé par l'apaisement, une frange non négligeable des médias.
Oui, alors, exactement. L'apaisement, ça veut dire Poutine peut faire ce qu'il veut. Hein. Donc,
mais dans cette attitude de ces partis-là, pour rester sur la politique politicienne française, je pense qu'il y a aussi, non seulement un embarras sur le fond, hein, on vient de le dire, mais aussi un embarras sur le fait que le président Macron retrouve quand même un rôle.
Ah oui.
Ça n'arrange pas forcément les affaires de tout le monde.
J'allais dire, c'est un effet mécanique.
Oui. Hein. Bien sûr qu'il y a un moment, on parlait de sa démission.
On parlait de sa démission il y a encore quelques mois. Donc,
Un mois, il y avait un sondage, il y a plus d'un mois et demi.
Et donc, je pense que ça fait aussi partie des réactions embarrassées.
Non, ce que je crois, c'est que, d'abord, je voudrais faire une remarque sur le gouvernement anglais. La tradition anglaise, c'est que l'Angleterre peut se battre pour des valeurs et des principes. On ne peut pas dire que ça a été l'histoire de la France. Premier point.
Pas toujours.
Je sais que la France était à Londres, mais enfin, en gros, celle qui gouvernait, elle n'était pas terrible. Hein.
Même pire que ça.
Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une histoire d'une France qui gouverne, qui ne prend pas le sens de l'histoire et qui ne met pas les principes en haut de la pile. Or, Emmanuel Macron, hier, a dit « Nous défendons la démocratie et l'humanisme ». Et que c'était très important, la fin de son intervention. Il dit « Nous défendons la démocratie et l'humanisme. Les budgets, les dépenses ne sont rien. Ce qui compte, c'est l'âme d'un pays. »
Oui.
Eh bien, l'âme d'un pays, ça ne peut pas être... c'est pour ça que j'entends bien que ça vous paraît choquant de ramener à qu'est-ce qu'on fait et qui paye et comment on va mobiliser, puisqu'il faut se mobiliser.
En temps et en heure.
Ça ne viendra pas en temps et en heure. Pourquoi a-t-il dit hier il n'y aura pas d'augmentation des impôts ? C'est-à-dire qu'il a commencé à introduire le clivage, c'est-à-dire qu'il a commencé, et alors qu'il est, comme vous venez de le rappeler, un président politiquement très faible.
Oui. On va se terminer là-dessus. On pourra en rediscuter la semaine prochaine, mais tout de suite, c'est l'heure de la politique sur les réseaux. Bonjour Véronique Reissoult, directrice de Backbone Consulting. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de l'allocution du président, et ça tombe bien parce que vous allez nous parler de l'allocution du président.
Ça tombe bien, franchement. Grosse surprise. 15 millions de téléspectateurs. Donc la question, c'est est-ce que sur les réseaux ?
Est-ce que c'est beaucoup déjà ? C'est pas mal.
C'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup.
C'est le niveau Covid.
C'est le niveau Covid, exactement. Et bien, niveau Covid aussi sur les réseaux sociaux, puisque pendant, c'est juste entre le 5 à 20h et ce matin à 11h, il y avait plus de 635 000 mentions et 12,7 millions de vues. Donc, niveau Covid, voilà. Alors, vu ne veut pas dire qu'on adhère, mais vu, et c'était surtout un signe d'intérêt, un signe d'inquiétude, et les gens ont trouvé que c'était important, enfin, les Français ont trouvé que c'était important d'entendre ce que le président avait à nous dire, attendait d'être rassuré. Alors, évidemment, sur les 635 000 messages en quelques heures, on a regardé les émojis, évidemment. Et donc les émojis vous disent assez simplement, parce que maintenant vous parlez couramment la langue de l'émoji, le gyrophare qui vous dit il y a urgence, c'est grave, c'est important. On va dire qu'il y a quelques personnages quelque peu mécontents, et le mécontent c'était lié à, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'argent magique, le fait que, eh bien voilà, tout d'un coup on nous avait demandé de nous serrer la ceinture, et là on trouve de l'argent, donc une incompréhension qui a provoqué de la colère, mais vous avez aussi plein de signes. assez multiples de bravo, merci, c'est formidable. Donc des signes plutôt positifs. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière ces signes positifs, c'est en fait la position du président de la République, la posture, le fait que voilà, on est au bon endroit, et c'est la notion de soutien et de fierté. Et d'ailleurs, ce tweet le montre en disant voilà, je remercie tous les jours d'avoir voté Macron parce que ça m'évite d'avoir honte et d'être un lâche. Et quand on regarde d'autres messages, voilà, globalement, c'est la satisfaction de notre position. Et les internautes ont beaucoup pointé une la forme de satisfaction
c'est
sur
la question, c'est la question posture. Du qui a sa place qui revient là, un peu.
Voilà, oui. C'est ça. Mais souvent. Mais globalement, on va dire, ils ne sont pas forcément satisfaits de ce qu'il a annoncé et des propos, mais c'est la posture et le fait qu'on défende l'Ukraine et le fait que voilà, Macron se transforme en leader européen et chef de guerre. Ben, voilà, c'est le message qui va apparaître d'une minute à l'autre. C'est ça qu'on pouvait voir le plus derrière les symboles positifs qu'il y avait dans les différents messages. Mais, parce que vous avez bien vu, il y avait un mais, alors il y a le sujet de l'argent magique, mais globalement, c'est la position d'Hervé Morin finalement est assez révélatrice et qui a été pas mal repris en disant mais peut-être qu'il y a
ancien ministre de la Défense quand même voilà, pour ceux qui l'auraient oublié
voilà un peu d'exagération sur la menace russe en disant ben voilà c'est beaucoup et ça revient à cette histoire des 100 milliards de dollars pour la défense qui tout d'un coup apparaissent et qui donnent l'impression que les trois choses que les gens ont retenues, le premier c'était que argent magique, le deuxième c'est que les 3% puisque on ne compte pas ça ne rentre pas le défense. Les dépenses de défense ne vont pas rentrer à 3%. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ben non, en fait, ça ne va pas du tout. On pouvait ne pas appliquer ces règles avant. Donc, en fait, on aurait pu avant négocier. Et donc, ça, c'est beaucoup. Ça revient beaucoup dans les
critiques. C'est toute la difficulté. Mais bon.
Voilà, c'est dans les points les plus critiques. Même si, de nouveau, les Français sont d'accord pour le soutien. Et on voit bien que c'est ça la partie positive. Et enfin, un dernier point que vous avez peu abordé, mais que j'ai beaucoup vu sur les réseaux. L'autre point de non-satisfaction, c'est que, en fait, les gens qui sont plutôt à gauche, voire à extrême gauche, en fait, eux disent, ben voilà, ça résume, ce tweet résume assez bien, en disant, ben, en fait, on va financer ce que nous exécrons le plus au monde, c'est-à-dire les multinationales capitalistes qui font des super profits en fabriquant des armes à l'étranger. Et donc, globalement, ce point-là, il ressortait beaucoup hier, en disant, oui, c'est la complexité de la situation qui est, il faut soutenir l'Ukraine, et en même temps, voilà. C'est un vieux jeu, mais c'était pas mal repris hier pour le titre, évidemment, et sur le fait que, voilà, pour la gauche et l'extrême gauche, c'est ce point-là qui est difficile. Il va falloir qu'on donne de l'argent à des gens que les uns et les autres supportent difficilement. Donc c'était en gros ce qui a été ressorti en peu d'heures quand même, parce que de nouveau, je vous dis ça, c'était entre 20h et ce matin 11h, donc c'est assez condensé.
Très bien. Alors la situation dans laquelle on se trouve face à la Russie est souvent décrite comme un choc.
Voilà.
Beaucoup disent on aurait dû le voir venir, c'était devant nos yeux, on n'a pas voulu ouvrir les yeux. Et là, c'est fait.
Alors, comme c'est décrit de cette façon-là, il y a des propos parfois qui sont extrêmes, mais il y a aussi quelquefois des images extrêmement élégantes pour rappeler à quel point les choses sont en train de bouger. La une du Time, vous avez dû la voir, elle a été beaucoup partagée, elle est vraiment très belle. Elle raconte assez bien ce que les uns et les autres ressentent, et c'est dit de façon élégante.
La fusion entre la Maison-Blanche et le Kremlin. Hein.
Exactement. Maintenant, tout le monde ne s'est pas exprimé de façon aussi simple et élégante. Voilà un exemple de ce que M. Karim Bouaram a posté sur son compte Instagram, qui a été beaucoup repris et qui interpelle quand même en soi, en se disant si les hommes politiques utilisent des images de ce type-là, certes, on a bien compris que c'est une image faite par l'intelligence artificielle, mais globalement, on est dans des propos qui sont un peu décalés, voire extrêmes.
Le maire de Saint-Ouen, je rappelle quand même.
Oui, pardon.
Qui a certaines ambitions nationales, visiblement.
Il a quelques ambitions nationales et qui est un homme politique, donc est-ce qu'il ne devrait pas donner un peu l'exemple? On peut se poser la question.
Ça rappelle les critiques contre Tony Blair.
Ouais. Oui, le caniche.
Exactement.
Le caniche
de Bush.
Bush au moment de l'intervention.
Et à l'époque, ça avait beaucoup choqué et les politiques ne l'avaient pas repris. Et là, maintenant, on en est là. Donc, je crois que c'est assez révélateur. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé au Parlement serbe. cette semaine.
Oui, les fumigènes tous azimuts.
Et voilà, on va les regarder. Ça a été énormément partagé sur les réseaux.
Racontez-nous, alors, parce qu'on n'a pas suivi, oui, forcément.
Alors, en fait, vous voyez, en Serbie, voilà, c'est le Parlement. On trouve que notre Parlement est parfois un peu agité. Ben voilà ce qui se passe au Parlement serbe. En gros, c'est...
On n'est pas au stade, là.
Non, on n'est pas au stade. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les membres de l'opposition qui tenaient des fumées éclairantes et colorées, qui lançaient sur les uns et les autres, vous voyez, c'est assez violent. Les scènes sont assez incroyables. En fait, il y a des manifestations anticorruption en ce moment qui sont menées par des étudiants, parce qu'il y a un toit qui s'est effondré et il y a eu 15 morts, et donc, en fait, lié à un sujet de corruption. Ces manifestations sont un peu partout dans le pays, et maintenant, au Parlement, alors qu'on devait débattre d'un projet de loi sur les étudiants et sur le fait de baisser les cotisations des étudiants, ça s'est enflammé. Alors évidemment, ça s'est arrêté après, mais c'est assez révélateur de la violence dans laquelle on est aujourd'hui.
Le gouvernement étant réputé pro-russe.
Exactement.
Oui.
Ce qui aiguise encore l'opposition.
Ce qui aiguise énormément l'opposition et qui explique pourquoi ils sont montés autant. Mais ces images, elles sont assez incroyables. Elles ont été beaucoup partagées, parfois associées ou dissociées au sujet dont on parlait là. Mais globalement, ça montre une espèce de tension et une ambiance qui est compliqué, et quand vous êtes sur les réseaux et que vous voulez rester neutre, ben voilà, vous tombez là-dessus, vous essayez de comprendre, et ce sont des images assez violentes, on peut dire, quoi.
Voilà. On peut dire ça.
Je crois que je peux le dire. Voilà. En tout cas, je pense que si on avait ça au Parlement français, on en parlerait un peu.
Mais peut-être que ça nous attend, on verra. Merci beaucoup, Véronique, merci à tous, et à la semaine prochaine sur France 24.